matière et de l'esprit transcende toutes les transformations dues au temps, toutes les vicissitudes. Cette existence de la matière et de l'esprit est éternelle et infinie. C'est à ça qu'on peut s'éveiller également. Réaliser que le corps et l'esprit ne peuvent ni apparaître ni disparaître. Contrairement à l'observation visuelle humaine, bien sûr, et bien entendu. Aussi, à propos donc du changement de façon de penser, d'un côté l'accumulation des œuvres pendant un temps infini, les périodes de formation, déclin, machin, et d'un autre côté l'enseignement du Bouddha originel, où il n'y a pas ça. Le souverain de la loi dit la chose suivante. Le Bouddha s'est éveillé à l'aspect véritable du monde, qui est la souffrance et l'accumulation. Donc, chaque témoin y voit que la souffrance des êtres, c'est la notion d'accumulation. Et en même temps, Shakyamuni s'est éveillé au sens véritable du hors le monde. Donc, le Bouddha voit les deux. Il voit d'un côté que la souffrance des êtres vient du sentiment d'accumulation, le fait d'avoir tel âge, telle possibilité, telle vie, telle famille, tel parent, tel passif, cette idée d'accumulation. Je suis la somme d'une accumulation. Mais en même temps, le Bouddha donc voit le sens véritable du hors du monde. Le hors le monde, c'est le fait que la pensée, que la cause et l'effet sont simultanés. Donc il y a deux lectures qui s'entrecroisent. Une lecture linéaire, où ceci entraîne cela. Par exemple, ayant un mec depuis 5 ans, vous avez deux gosses, par exemple, hein, donc ceci entraîne cela. Et puis d'un autre côté, mais ça c'est les souffrances, ça. Ça c'est les souffrances. Mais en réalité, si on arrive à pratiquer et à se séparer de cette lecture, à ce moment-là, on réalise que notre propre existence est hors le monde. Que la cause et l'effet simultanés de notre vie n'est pas prisonnière d'un tissu linéaire de cause et d'effet qu'on voit. Donc le Bouddha voit les deux choses en même temps. Il voit que les êtres souffrent de s'estimer être dans un temps et à une époque donnée à subir ceci, à subir cela. Et en même temps, il voit que la libération, c'est réaliser que tout est hors du temps, que le temps n'existe pas encore une fois. Donc, le grand patriarche dit, ces deux mondes ne sont pas distincts, enfin, c'est la même chose, le Bouddha voit les deux choses, mais les humains n'en voient qu'une, ils voient que tout, ils sont nés, ils vont mourir, machin, bidet. Et souvent la loi dit, le fait que la souffrance se produise à présent provient du phénomène de l'accumulation qui est la cause même de la souffrance. L'accumulation manifeste le cœur plongé dans l'illusion et dans les mauvaises passions. Donc, dit-il, la voie permettant de manière correcte d'interrompre le processus des souffrances est la voie de hors le monde. C'est-à-dire voir en soi que la cause et l'effet de notre existence sont simultanées et que nous sommes hors du temps. Ce qui permet de gérer les affaires usuelles. Il faut quand même aller bosser le matin et aller au shop de temps en temps. Donc, ça veut pas dire qu'on s'interdise l'action dans ce que les humains voient comme étant normal, mais dans notre fort intérieur, en pratiquant le matin et le soir, on s'éveille au fait que nous ne pouvons ni apparaître ni disparaître. Ça, c'est bien. Difficile, mais c'est la souffrance. Plus souvent qu'usuel. Par exemple, quand je t'ai connu, tu avais l'esprit qui était absorbé par les problèmes de thunes. Ton esprit était agité par les problèmes d'argent. C'était vraiment une préoccupation. Il fallait bien gérer la baraque, les gosses, le mari, l'amant, enfin, tout le monde. Il fallait bien gérer tout ça. Et donc, c'est normal, quoi. Je sais pas. Non, attendez, j'ai pas de détails non plus, mais j'imagine. mais quand j'ai connu l'ancien, donc c'est il y a 20 ans, 25 ans maintenant, elle venait juste de commencer à pratiquer, et c'est vrai que le flux de pensée, toujours, c'était la préoccupation de l'argent. Comment faire?
Parce que...
Ah oui, il y avait des raisons. Ouais. Bien sûr, il y avait des raisons, comme tout le monde. Bien sûr. Mais en pratiquant, dans le même flux d'événements, vous pouvez ressentir la joie et la pureté de votre existence Alors même que toutes les conditions devraient les amener à souffrir de ceci, de cela, machin, bidule. Ça, on peut le faire en pratique. Donc.
Hein? La mort.
On peut s'éveiller. Je sais. D'ailleurs, j'en ai pas. Hein, c'est le problème. Mais la mort, c'est pareil. Il faut que tu t'éveilles, en fait, que ça existe pas. La mort. Ah oui, bien sûr, on voit le contraire.
Tu vois, autre que moi. C'est dur de cette blague. Mais
Mais comprenez aussi que. Comprenez aussi que nous, les éléphants et les singes, par exemple, on voit la mort de l'autre. Mais les fourmis ne le voient pas. Donc, ce n'est que seulement une qualité de vie ou deux ou trois qui se heurte au problème de la naissance et de la mort, alors que d'autres vies ne le voient pas, d'autres qualités de vie ne le voient pas. Et ça ne veut pas dire qu'on est les maîtres de la création, hein. Ça ne veut pas dire qu'on voit le mieux. Ça veut dire que selon ta vie, selon ce que tu es à chaque instant, soit tu seras en face d'un problème comme celui de la mort, soit non. Il y a des êtres qui ne voient pas du tout l'arrêt, la mort.
C'est un défaut de cette condition.
Voilà, c'est un défaut de cette condition. On y va? Donc.
Chats, quand on a dit qu'il cherchait sa maman pendant 24 heures, après il a oublié complètement sa maman, et après on lui remet sa maman devant lui, mais il n'aurait pas reconnu sa maman.
On reprend? Donc, il est dit, la phrase. Tu veux du feu? La phrase est un peu compliquée, mais ça va se clarifier tout de suite. La révélation dans les faits de l'originel exprime la vie et se manifeste sous la forme de la fleur de lotus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le souverain de la loi dit la chose suivante. L'aspect de cette vie, donc cette vie c'est la vôtre maintenant, la nôtre maintenant. Il dit l'aspect de cette vie possédant telle quelle la causalité, elle montre les différentes formes que revêtent les causes et les effets. C'est-à-dire que si vous ne dormez pas pendant 8 jours, vous allez être fatigué plus que d'habitude. Donc là, on voit, on ne dort pas, donc effet, on est fatigué. Donc il dit, l'aspect de cette vie possédant la causalité montre les différentes formes des causes et des effets qui s'enlacent, comme ça. Et il indique, l'aspect de la vie lui-même prend la forme de la causalité. Donc il y a deux aspects. L'aspect de la vie en tant que telle, qui est Rengé, qui est donc la cause et l'effet simultané, et en même temps, bien que ce soit simultané, la cause et l'effet, on est pris en tant qu'humain dans un réseau où on se voit, comme étant né de parents, il y a eu telle éducation, ceci, cela, donc on voit, nous, des causes et des effets linéaires, alors qu'en fait, la nature même de notre existence, c'est la cause et l'effet simultané. Mais en tant qu'humain, on ne peut pas voir différemment que linéairement. Mais c'est faux. On sait en pratiquant, on peut s'y éveiller. Il convient d'ailleurs d'y arriver le plus tôt possible. Vu qu'on n'a pas le temps. Je me dis le cul. Aussi, il est dit.
Comme étant instantané.
Et non, justement, comme tout est instantané, pour se manier le cul. Il est dit aussi que, au sein même de cette, donc d'un côté, la cause et l'effet simultané, et nous, avec notre vision, on a l'impression qu'on est pris dans le temps, tout ça. Il dit en même temps que toutes sortes d'éléments apparaissent à partir du principe latent de la vacuité. Donc toutes sortes d'éléments apparaissent tout le temps, dans notre esprit et dans l'environnement. Ces éléments naissent et meurent à chaque instant, et l'un d'entre eux à chaque instant est l'objet de notre conscience. Donc il dit que à chaque instant, une infinité d'éléments naissent de la vacuité, donc on disait tout à l'heure au début quelle était la richesse, le potentiel infini des choses, des qualités. Donc d'un côté, il y a une foule d'éléments qui naissent et meurent, qui viennent de la vacuité, et il dit que ce qu'ils sont, leur manière d'être à ces éléments, à ces pensées, ça régit l'esprit des êtres vivants, donc nous. Par exemple, vous m'écoutez là, donc quelque part mes paroles vont jusqu'à votre esprit, vous réfléchissez à ce que je dis. Si maintenant je parle du poids du coude sur la table, sur le fauteuil, ou du poids du futal ou de la jupe sur le genou, ou du pied au bout de la chaussure, vous allez voir que vous avez tous les capteurs qui sont alimentés par des objets. Vous sentez votre pied au bout de la chaussure, vous sentez le coude sur la table, le poids du vêtement sur les épaules. Mais quand je parle, tous ces objets qui sont existants en tant qu'objets de la conscience s'évanouissent pour d'autres objets, ce que je dis ou ce que vous pensez à chaque instant. Autrement dit, là on a pris quelques exemples, mais il y a, c'est-à-dire que l'objet de la conscience instantanée, c'est toujours la négation d'une infinité d'autres objets qui sont nés en même temps que lui et qui ont disparu en même temps que lui. Donc telle est la réalité. Autrement dit, l'objet de la conscience à chaque instant, c'est la qualité même de l'individu, mais au détriment d'un parterre d'autres objets qui sont nés et morts en même temps et qu'il n'a pas pris, parce que son état le pousse à préférer les pensées obscures, malodorantes, angoissées, toutes les pensées usuelles de l'avidité, de la colère, de la stupidité. Autrement dit, le monde est différent pour chacun selon ce qu'il perçoit. C'est l'état. C'est l'état. C'est l'état qui sélectionne, bien sûr. Voilà, ben c'est ce que j'en viens de redire encore. Parce que l'objet de la conscience à l'instant même est une négation de tous les autres objets qui étaient en même temps. Donc c'est un génocide, quelque part. Et ça nous amène, c'est là on arrive maintenant où je voulais en venir, ça nous amène à ce que disait par exemple une vieille école bouddhique qui dit que la parole n'est pas conforme à la pensée. Là, d'autres l'ont dit, qu'on ne peut jamais dire vraiment ce qu'on pense, hein, que les mots sont difficiles pour faire comprendre ce que l'on ressent. Mais il dit aussi, la parole fonctionne sans pensée. C'est-à-dire que la parole qu'on entend en nous, donc la pensée momentanée, si vous préférez, n'est pas un acte. La parole s'impose. Autrement dit, l'état, la qualité de vie qu'on a, se traduit immédiatement par des mots, par des paroles. C'est ce que disait Heidegger. Il disait, la parole parle elle-même. Ou il disait, parler est avant tout écouter. Quand vous formulez une phrase, c'est ce que vous entendez en vous. Vous êtes prisonnier de ça. Prisonnière, donc là j'ai une clientèle féminine aujourd'hui. Ou alors, quand Nietzsche disait, la pensée surgit en moi. D'où vient-elle? À travers quoi? Je l'ignore. La pensée se présente indépendamment de ma volonté. Ah oui, bien sûr. D'autres auteurs, d'ailleurs, des auteurs classiques ont dit que, par exemple, la mémoire, c'est quand elle veut. C'est se souvenir d'un truc, c'est on peut essayer de ne pas y arriver, puis demain, en prenant une bouche, ah, le mot revient, l'idée revient. Donc, voilà. Donc, autrement dit, ce qui est entendu en soi en termes de qualité, c'est un effet qui après est retracé malhabilement par des mots pour les autres. Mais c'est entendu en nous. La qualité de la vie ou la parole, si vous préférez, qu'on entend, qui résonne en nous. Bon, j'ai vu des cas, j'ai vu des fois où les pensées qui montaient en moi étaient tellement violentes que j'entendais pas la télévision devant moi. Donc le raffut est tellement fort à l'intérieur que tous les autres sons ou les autres images s'évanouissent devant leur appui intérieur. Par exemple, une gosse au lycée qui croise enfin le regard d'un beau gosse qui la trouve sympa, elle rentre chez elle, elle fait du bon de lui mettre. Elle plane. Quelqu'un, on dirait que quelqu'un l'aime, tu vois, le fait amoureux. C'est transporté. C'est pas un acte, tu décides pas d'être transporté, c'est un état. T'as pas le choix. Bon. Tout ça pour en venir à la chose suivante. Voilà, il dit les sens, ce sont des masses de chair. L'oreille, le nez, les yeux, c'est de la chair. Donc il dit, l'œil ne voit pas les formes, l'oreille n'entend pas les sons, le nez ne sent pas les odeurs, la langue ne sent pas les saveurs, le corps ne perçoit pas les choses tangibles. Et il est dit, il n'y a ni organe qui voit, ni visible qui est vu. Il n'y a là aucune action de voir, aucun agent qui voit, ce n'est que le jeu des causes et des effets. J-E-U. Donc, bien que nous, on parle de cinq sens, vis-à-vis desquels, grâce auxquels, on perçoit un monde extérieur, en réalité, ce n'est que la cause et l'effet simultané et sa qualité propre que nous vivons. Voilà. Et donc, Nichiren dira, les mérites de l'enchaînement de la cause et de l'effet ne sont-ils pas la moelle de nos os? C'est la même chose. Étant instantané, les mérites ou les démérites de nos existences sont la moelle de nos os. Donc c'est ce qui est notre réalité à chaque instant. Provisoire, bien sûr, provisoire. Il y a aussi une qui est belle, je l'avais déjà dit, mais elle est mignonne tout plein. Il est dit, la matière de celui qui suit la voie du Bouddha est la voie. C'est-à-dire que notre matière devient la voie bouddhique en suivant la voie bouddhique. Ça, c'est très beau. Donc, le corps devient la voie bouddhique, en fait. Et on va pouvoir arrêter bientôt, mais je vais en arriver là, parce que c'est intéressant. Nichiren dit que lorsque on appelle la nature de Bouddha de notre cœur, en récitant la loi, la nature de Bouddha de notre corps, ainsi appelée, apparaît immanquablement. Et leur nature de Bouddha ainsi appelée, Bonten, donc la divinité protectrice, Bonten et Taishaku, nous protège. Leur nature de Bouddha ainsi appelée, les Bouddhas et les Bodhisattvas se réjouissent. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que lorsque l'on récite Nam-myoho-renge-kyo, non seulement on appelle notre nature de Bouddha, qui au fur et à mesure est sollicitée et apparaît, sous forme de sagesse, de lumière, d'éveil, mais en même temps qu'on fait ça, ça sollicite l'état d'éveil autour de nous, ce qui fait que, au fur et à mesure, on inscrit dans notre environnement des divinités qui se nourrissent de nos daimoku, des Bouddhas et des Bodhisattvas. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité de notre corps et de notre environnement est élevée à son plus haut niveau de par le fait que l'on récite Nam-myoho-renge-kyo. Eh bien, cette qualité qu'on appellera Bonten, Taishaku ou Bouddha, Bodhisattva, ces qualités qui sont produites par le Daimoku et qui deviennent notre enveloppe, ça ne peut pas disparaître. À travers naissance et mort, ça fera partie des caractéristiques de notre corps et de notre environnement. Et pour être plus précis avec ça, on arrêtera là parce que j'ai soif, je m'entends. La chose suivante, qui est très belle aussi. Non, toujours en liaison avec ça, hein, les divinités bouddhiques qui sont à côté de nous, dans notre existence, les Bouddhas et les Bodhisattvas qui sont réjouis, qui se réjouissent. En fait, en pratiquant, on réjouit l'infinité de ce qui est noble autour de nous. D'accord? Il est dit, toutes les existences présentes en ce monde se meuvent et fonctionnent en relation avec la voie bouddhique, c'est-à-dire avec l'enseignement. C'est-à-dire que tout ce qui est, enfer, avidité, animalité, colère, joie, tout ça, tout ce qui est intéressé avidement par l'éveil. C'est qu'ils ressentent la qualité de l'éveil comme étant la valeur la plus élevée. Bon, par exemple, un lapin. Un lapin, ça vient avec des lapins, en général. Bon. Quand elle l'a eu au début, mesdames, s'il vous plaît, pour une fois que j'ai des idées, vous avez un mois pour dire des conneries après. Donc, avant qu'elle ait ce lapin, il était lapin. Il vivait avec des lapins. Elle a le lapin. Au début, le lapin, il avait peur. Il se planquait sur les tables, machin, milieu. Elle a commencé à le caresser, il a commencé à voir qu'elle ne lui voulait pas de mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès qu'elle est quelque part, le lapin se pointe, il se fout devant pour se faire flotter. C'est-à-dire que, il passe d'un état où être flotté une heure ou deux par une nanette, il connaissait pas. Et puis, au fur et à mesure, il voit qu'il aime bien ça. Et maintenant, si jamais elle ne le flotte pas, il vient. Il la mord ou il la bouche, l'air de dire, elle flotte moi parce que j'adore être flotté. Donc, mais comprenez bien que maintenant le lapin, être piloté, c'est devenu une part importante de son univers, alors qu'avant, ça n'y était pas. D'accord. Eh bien, de la même manière, lorsque nous pratiquons, nous faisons apparaître les états d'éveil chez tout ce qui est. Et tout ce qui est ressentant un plaisir supérieur à l'audition de la loi, comme le lapin se faisant flotter, eh bien, il y a une propension qui se dessine de tout ce qui nous environne vers l'éveil. En disant, comme j'y ai goûté, je vois que j'adore. Bon. Nietzsche vient de dire à propos de l'éveil que, quand on creuse un trou et qu'on commence à trouver de la terre humide, ça veut dire qu'il y a l'eau en dessous. Donc, en trouvant un peu de terre humide, on ne se décourage pas, on continue à creuser. Une fois que les gens, les êtres, ont senti un peu la saveur de l'éveil, comme une goutte d'eau salée rappelle l'océan, eh bien, ils vont vers l'éveil. Donc, notre pratique entraîne une infinité qui, sinon, n'aurait jamais eu l'audition de ça, la connaissance de ça, le plaisir de ça. Donc, il est dit, le Sutra du Lotus enseigne qu'il existe une logique de la joie et de la souffrance, de l'élévation et du déclin, à laquelle toutes les existences du monde des phénomènes, aussi bien celles qui sont visibles que celles qui ne sont pas visibles, sont soumises. Mais cette soumission à une qualité supérieure, c'est parce qu'on préfère, parce qu'on aime. Le lapin, il adore se faire flotter, donc il vient près de Brigitte. Donc nous, en pratiquant, on fait apparaître dans tout ce qui est une qualité qu'ils ignoraient et qu'ils trouvent savoureuse. Et donc, ils sont amenés par nous à vouloir bénéficier de plus en plus de cette saveur. Donc, il est dit, l'immense principe du Sutra du Lotus représente l'enseignement et la voie guidant l'ensemble du monde des phénomènes. Ainsi, le rassemblement de l'intégralité du monde des phénomènes exprime l'achèvement des êtres. Alors, comprenez bien. En tant que présence instantanée, conditionnelle et vacante. En tant que présence instantanée, nous sommes, à chaque instant, l'achèvement d'une infinité et la réunion d'une infinité d'êtres, à chaque instant. Autrement dit, l'instantanéité est le rassemblement et l'achèvement d'une infinité d'êtres. Eh bien, lorsque nous pratiquons matin et soir, ce rassemblement d'une infinité d'êtres qui est notre existence se trouve élevé à l'éveil lorsqu'on pratique. C'est cela l'action du Bodhisattva. Que nous puissions mesurer ou non l'impact, ça c'est autre chose. Mais au fur et à mesure, on le voit parce qu'on s'éveille dans cette vie. Donc la présence instantanée en pratiquant, c'est le sommet, c'est la terre pure. Présente en permanence. A ciao, bon dimanche.
On entraîne.
Voilà, c'est ça. L'instantanéité est le rassemblement d'une infinité, toujours, toujours, toujours.
Et ça, on peut pas le mesurer.
Non, mais c'est l'infinité environnementale. Oui, hein, c'est...
Déjà pour soi, donc, à la base, on imagine qu'on entraîne en fait tout.
C'est ce qu'on appelle Bonten Taishaku. Divinité boutique, bien sûr. Bon, voilà. Mesdames et messieurs, c'était gentil d'être venu. Bon, on a avancé quand même, là.
Ouais, moi, je voudrais poser une question.
Seulement si j'ai une réponse.
À partir de nos vaisseaux.
Ouais.
Ça veut dire qu'on peut prendre par exemple nos phlebones et éclaircir nos vaisseaux. C'est mieux que.
C'est bon, la loi dit qu'on va se planter si on fait ça, on va rien comprendre.
Ah non. D'accord.
Mais on peut le savoir.
C'est trois temps. Je fais comme trois temps en danse, ouais. Par exemple.
Ainsi, est l'aspect.
C'est une pas pour. Tu vois ce que je dis? Et je me disais à ce moment-là, si on veut le faire correctement, on peut prononcer.
Non, il a dit non. D'accord. Mais je t'aimerais par un dernier truc encore. Juste trois lignes. On a dit plein de trucs à propos du bouddhisme aujourd'hui. Donc ça a été entendu plus ou moins par chacun. Donc, il est dit que si on considère notre esprit comme un jardin, on a entendu des choses. On a entendu la loi aujourd'hui. Donc, il est dit, dans le parc des formules de mémoire parfaite, les réalités non polluées forment les arbres d'une forêt. Les réalités non polluées, c'est l'enseignement du Bouddha. Cet enseignement, vous l'avez entendu. Eh bien, ces vérités non polluées que vous avez entendues vont être comme des arbres dont le feuillage dans un jardin protège du soleil et rafraîchit. Donc, le rafraîchissement de votre esprit provient de ce qui est entendu, qui, à la manière d'un arbre, protège de la souffrance que le soleil inflige. Donc il est dit, en commentaire, le fait que l'individu retienne les enseignements sans rien en perdre ni les laisser se disperser est semblable à un parc. Leur vérité est élevée, touffue et étendue comme le feuillage des arbres. Donc la pacification de l'esprit, c'est ce qui a été entendu de l'enseignement du Bouddha et qui, se développant en soi, protège de la lumière du soleil et de sa chaleur. C'est ce qu'on appelle l'éveil. Donc comprenez bien que l'esprit est comme un jardin que nous essayons de faire fructifier. Mmh. Ah, ciao. Je vois qu'on souffre que de la connerie.
Bah ouais, c'est vrai.
On souffre parce qu'on est con.
On souffre parce qu'on comprend rien et...
Ça a été pas trop dur, non? Oui, il était pas trop dur, celui-là.
Ouais.
On y plie plus, ça va, puis ça paraît...
Oui, en fait, c'est ça, c'est...